Tout de suite sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient feuilleton. Cette semaine, Les combattantes, sortir des violences faites aux femmes, une série de Johanna Bedeaux, réalisée par Marie-Laure Ciboulet. Au départ de cette série, il y a une soirée de Nouvel An qui a viré au cauchemar. Il y a aussi une chanson de plus, aux paroles d'une brutalité inouïe, et des mots qui sont souvent le point de départ de la violence. Des mots faits pour humilier. Et puis il y a l'envie de décortiquer ces mécanismes qui détruisent et de redire que le viol est une volonté d'anéantir, voire une arme de guerre. Et surtout, il y a le souhait de donner la parole à ceux qui soignent, et bien sûr, à celles qui reprennent la main, racontent et récupèrent le contrôle de leur corps et de leur vie. Parce que théoriquement, il y a toujours une fin au cauchemar. Pour commencer, les personnages. Des femmes violées à de multiples reprises mais qui ont repris la parole. Un médecin qui consigne tout et nomme les choses. Un autre qui est en première ligne. Une médecin qui décrypte les mécanismes du viol et des militants qui veulent que ça cesse. Ensuite, le décor. Des zones de guerre où tout est permis et le pire est possible. Des hôpitaux où l'on récupère. Des cabinets où l'on s'abrite et des associations où se déploie l'énergie de la colère. Aujourd'hui, 3e épisode, on est en France, à l'hôpital, et les consultations vont commencer.
Bonjour Françoise.
Bonjour.
La patiente est arrivée, celle de... Bon, d'accord. Et ben, le temps de m'installer et puis on va aller... vers nos urges. Là, ici, c'est le secteur médico-judiciaire et psychiatrique.
Dans votre poche, vous avez quoi? Vous avez les dossiers?
Dans notre poche, oui, les dossiers qui sont un petit peu des dossiers types, avec la page de schéma classique, qui se complète par des photos. C'est souvent que le stéthoscope du médecin légiste, c'est en fait son appareil photo. Hein, pour pouvoir constater, pour pouvoir apporter des éléments. Et quand on a un élément de preuve, on va essayer de donner ce cliché, de le joindre au rapport.
Vous avez créé ce type de consultation pour répondre à quelle demande, notamment?
Alors la première demande a été une demande judiciaire, à la demande du parquet, pour prendre en charge les femmes victimes de violences. Et puis, naturellement, le développement s'est fait par la suite avec les personnes victime de viol dans d'autres circonstances, et c'est le cas des personnes demandeuses d'asile.
Les survivantes. Johanna Bedeaux, Marie-Laure Ciboulet. Le docteur Mukwege, en République démocratique du Congo, soigne en moyenne une dizaine de femmes par jour pour les plus chanceuses qui accèdent à son hôpital. On parle de viols massifs, collectifs, de viols publics et organisés par des bandes armées. Ces viols apparaissent dans des zones géographiques précises. C'est là où se trouve la plus grande densité de minerais, coltan, or, cassitérite, logés dans nos téléphones portables et nos ordinateurs, que l'on retrouve ces bandes armées. Et c'est de ces zones en particulier que viennent la majorité de ces femmes. À l'hôpital de Compiègne, dans le département de l'Oise, plusieurs femmes attendent d'être reçues dans le service du docteur Marc pour un premier suivi.
Tenez, allez-y, on va s'installer là d'abord. Bon. Merci. Merci, je vous en prie. Bon, pour vous expliquer un petit peu, donc là, on renvoie avec les personnes qui ont été victimes de viols, notamment le viol comme arme de guerre, puisque c'était au Congo, c'est ça?
Oui.
Pour faire un bilan avec vous, des séquelles, de ce qu'on peut faire, et faire éventuellement enfin, le rapport dont vous avez besoin pour l'OFPRA. D'accord?
Oui. Comment vous vous appelez?
Je m'appelle Alicia. Je suis en France depuis le 22 avril 2016. Je viens du Congo RDC. J'ai travaillé dans un ministère que je préfère ne pas citer.
Qu'est-ce que vous venez faire ici, Alicia, dans cette consultation avec le docteur Marc?
Justement, je suis venue me consulter pour pouvoir voir de preuves et j'ai voulu aussi me faire tester pour le VIH. Quoi. C'est ce qui est le plus important parce que je ne l'ai pas fait avant.
Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu ce qui s'est passé là-bas? Comment vous viviez? Qu'est-ce que c'était votre vie là-bas?
Oui, l'histoire date un peu plus de... Depuis l'année 2010, j'ai vécu de torture et de viol séquestré. Je suis victime des actes de viol et de persécution dans mon pays d'origine et aussi dans le pays où je suis allée pour demander l'asile, l'Afrique du Sud.
D'accord.
Suite aux agressions sexuelles, j'ai été victime d'une grossesse. L'enfant n'a pas de papa, donc voilà.
L'enfant, il est avec vous, là, en France?
Non. L'enfant est resté avec mes parents, donc. Et il n'a pas grandi aussi avec moi.
Les violences sexuelles que vous avez subies dans votre pays?
C'est en 2010.
En 2010, c'était qui, les auteurs? C'était des soldats? C'était des...
Oui, c'était des hommes armés de service des renseignements de mon pays, que je ne connais pas parce qu'ils étaient en déni civil. Mais l'endroit où j'étais me paraît aussi étrange avec... Beaucoup trop de choses qui m'échappent aussi, des dépressions, des traumatismes que j'ai subis et dont ma famille aussi est victime. Donc,
il y a eu d'autres femmes dans votre famille qui ont aussi subi ça?
Oui, parce que lorsque je suis arrêtée dans l'endroit où j'étais en train de consulter des sites avec d'autres correspondants des sites, et les diasporas congolais ont chaté dans un cyber à mon insu, je suis surpris par des hommes en tenue civile qui m'ont arrêtée. Donc, voilà, et là, comme ils avaient mes pièces d'identité, ils ont parvenu à arriver dans la domicile. Ma mère fut violée, ma sœur aînée, voilà.
Et quand ils vous ont interpellé, ils ont aussi agressé sexuellement votre mère, votre sœur?
Oui, à mon domicile. Lorsque j'ai réussi à m'évader, on m'a raconté aussi l'histoire, comment ça s'est passé.
Et vous avez été donc...
Je suis restée là-bas presque une année. Et pendant les démarches que mon oncle et mon frère cousin ont pu entamer, ils ont réussi à me faire évader de là.
Et pendant une année, dans cette prison-là, vous avez subi des agressions sexuelles?
Agressions sexuelles, de frappe, et aussi ma santé s'est détériorée. C'est là que j'ai commencé à avoir des problèmes de santé. Des tortures assez qu'on m'a frappé, mes dents du bas se sont cassées. Et là, parce qu'il n'y avait pas de soins, on mange des traumatismes. Donc j'ai attrapé une maladie des caries dentaires qui, dans les dents ici, sont cassées. Voilà.
Ça, on va en faire la constatation et puis une photo avec, avec cette lésion-là, parce qu'elle est importante.
Quand, du coup, les gens vous ont attrapé, vous saviez ce que vous alliez subir certainement?
Je me disais que là, c'est fini pour moi, je vais mourir. Je me suis fait d'abord incarcérer dans un endroit inconnu que je m'en souviens pas trop parce qu'il y a trop de... En fait, de brouillard et des choses qui me passaient à la tête et j'essaie de me rappeler. Dans la cellule où j'étais, il y avait une quinzaine de personnes. Mais vous savez, lorsqu'on est en train de vivre les derniers instants de la vie, on peut voir une maison, mais c'est un arbre. On peut voir un arbre, mais c'est une maison, c'est ça.
Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été incarcéré et on vous donnait de quoi rester en vie?
Juste de petits tricks, mais avant de le donner, ils viennent choisir de femmes avec qui ils auront des relations sexuelles ce jour-là. Puis on vous donne à bouffer juste des petites graines de maïs et du riz et un peu des haricots. J'étais bien sûr malade là-bas parce que j'ai attrapé beaucoup d'autres maladies. Évidemment, j'ai été torturée terriblement. Je n'ai plus le sourire d'une femme normale, vous voyez, avec des dents cassées. Parce que j'ai subi la torture, d'autres choses, je préfère pas dire ça. Ça fait mal lorsque je me rappelle de ça.
Comment vous avez réussi à tenir pendant un an?
Comme on dit, l'espoir fait vivre et c'est par la grâce des dieux. Donc je me disais que non, Je ne suis pas encore perdue et lorsqu'il vient un peu, j'essouffle de vie. Mais lorsque ma santé s'est détériorée, c'est alors que Dieu m'a fait grâce d'être retrouvée par le membre de ma famille, donc en complicité avec d'autres gardes, quoi.
C'est des gardes qui vous ont permis de vous libérer?
La famille est traquée jusqu'à ce jour où je vous parle, c'est pourquoi j'ai un peu peur de pouvoir parler d'autres choses, parce que j'ai quitté Kinshasa pour me passer avec vos documents. Donc.
Après, quand vous vous êtes enfuie, vous avez vu que vous étiez enceinte?
Oui, j'étais enceinte déjà et l'enfant était né. Je ne connais même pas la personne parce que j'ai déjà subi de viols avec des personnes que je ne connaissais pas aussi. L'enfant est né au mois de mai.
Et cet enfant, vous aviez envie de l'élever?
C'est toujours difficile, surtout que lorsque vous les regardez, parfois ça vous donne l'envie de lui faire du mal, mais il est innocent, vous voyez. Et aussi, l'enfant n'a pas été avec moi suite à des dépressions, des traumatismes, donc il a été élevé sans moi, donc il ne me connaît pas. Pour lui, il connaît d'autres personnes, qui, disons ma sœur, qui s'est mise pour encadrer donc sa maman.
L'armée et ses hommes violent les femmes. Pour attaquer qui? Pour atteindre qui?
C'est vraiment difficile, pour rien. C'est juste pour des raisons politiques, faire torturer des femmes innocentes, des personnes innocentes. Pour vous connaissez les régimes actuels, qui est le problème qui est maintenant, c'est le Rwanda. Donc, ils sont en train de nous faire voir que eux, ils peuvent tout et que nous sommes des vauriens. Voilà, et que nous allons massacrer vos femmes, vos enfants, votre richesse, tout nous appartient et vous serez notre marchepied. Donc, c'est ça.
Est-ce que depuis que vous êtes en France, vous avez eu un bilan sanguin?
On m'a dit d'attendre, c'est ce que parce que je suis assez récent que je suis ici. Bon, c'est une histoire qui est un peu longue et complexe. Voilà, je suis allée en Afrique du Sud. Là, j'ai vécu avec ma tante, elle aussi. Elle fut victime de la xénophobie, elle fut lapidée. Moi, je fus encore violée. C'est là que j'étais vraiment dans des dépressions terribles. J'ai décidé de retourner au pays, quand bien même j'étais en insécurité. Voilà, et au pays, j'ai traversé par Lubumbashi aussi pour regagner Kinshasa avec une fausse identité. Et je vivais avec l'ami de mon père. C'est lui qui a réussi, en fait, de m'introduire, parce qu'il m'a dit de prendre les risques pour chercher un moyen, une opportunité de pouvoir quitter le Congo maintenant. Lorsque je suis arrivée ici, c'est en cours de route que je suis abordée par un monsieur que j'ai confié les soucis. Il m'a dit qu'il allait pouvoir m'aider à faire mes démarches de demande d'asile. Et là, par ce monsieur-là, je suis encore séquestrée. Il a voulu faire de moi sa femme par force.
Parce que vous lui aviez raconté ces histoires de viol que vous aviez subies?
Oui.
Il s'en est servi un peu sous la contrainte, enfin sous l'emprise un petit peu avec vous?
Oui.
Et ça, c'était avant d'être prise en charge dans un foyer, etc.
C'était le 2 juin de cette année. Et là, je me suis retrouvée quelque part dans une ville que je ne connaissais pas, parce que je croyais que l'ensemble c'était Paris, je ne connais pas encore le pays. Et là, j'ai rencontré une dame qui... Donc, elle m'a approchée parce qu'elle m'a vu en train de paniquer, de pleurer. Voilà. J'ai craqué, voilà. Elle m'a approchée, je ne voulais pas. Par après, je l'ai encore suivie, je lui ai expliqué. Elle m'a dit d'appeler les 115. Les 115 de cette ville-là n'ont pas voulu m'y prendre parce que j'expliquais tout en même temps et c'était difficile qu'ils puissent me comprendre. Par après, j'ai encore insisté. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas m'y prendre, mais pour ma demande d'asile, je dois aller dans une autre ville, Beauvais. La dame a gardé une nuit chez lui, chez elle. Puis le matin, elle m'a montré comment on fait. Et j'ai pris le train jusqu'à Beauvais. Et à Beauvais, j'ai appelé aussi les 115. Là, on m'a gardé dans un... C'était le foyer d'homme, les urgences.
Vous avez heureusement un foyer. Et donc là, ceux qui vous adressent aujourd'hui, c'est le commissariat ? D'accord. Où vous avez fait donc le dépôt de plainte ?
Oui.
D'accord. Pour les derniers faits qui se sont passés, non pas quand vous étiez au Congo, mais qui se sont passés ici. Okay. D'accord. Si on vous avait vu plus tôt, on aurait fait des prélèvements pour la recherche d'ADN, etc. On aurait peut-être mis un traitement en route, traitement prophylactique. Hein. Mais là, on va pouvoir, on est à distance, c'est bien, on va pouvoir vous faire un bilan sanguin et être sûr, vous regardez un petit peu s'il y a une contamination, s'il y a un problème particulier. Regardez tout ça, d'accord.
Vous essayez de vous battre pour faire changer les choses dans votre pays.
Oui, aussi, vous voyez, un peu, la jeunesse est négligée, il n'y a vraiment pas assez, on ne nous donne pas vraiment assez notre place dans la société, voilà. On s'est révolutionné contre le régime sur place, quoi. Bon, voilà. Et j'avais d'autres, j'ai mon frère et mon frère cadet qui, aussi, eux, sont de victimes de ces actes. J'ai un frère qu'on est en train de rechercher, évidemment, pour... ça fait déjà 6 ans qu'on est en train de le chercher. On garde encore espoir, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de décès, des choses qui se passent dans mon pays. Vous savez, c'est terrible, évidemment, la fosse commune de Maluku. On s'est dit, peut-être qu'il n'est plus, voilà. Voilà, quoi, c'est terrible. Et il y a 2 femmes qui sont violées chaque jour. À l'est du pays, c'est ce qui nous rend malades, quoi. C'est ce qui nous paralyse un peu, femmes congolaises, de se sentir en sécurité.
Comment vous vous sentez, vous, aujourd'hui ?
Je me sens un peu vide et un peu étourdie, mais ça va. J'ai du mal à vivre tout ce que je vécu, là. C'est dire avaler et... la nuit, voilà. C'est difficile de faire muller, de dormir, d'insomnie, de migraine. C'est un peu ça. Et la famille de l'autre côté qui est dérangée. Et moi-même, j'arrive pas à avaler, quoi. C'est dire à avaler. C'est dire difficile à pouvoir entamer encore une vie normale.
Est-ce que vous avez vu, là où vous résidez, est-ce que vous avez vu le CMP, le Centre Médico-Psychologique ? Est-ce qu'ils s'en sont occupés de vous ?
En fait, je suis allée avec ma assistante pour porter plainte. C'est la dame qui m'a donné d'abord, premièrement, votre rendez-vous. Et j'ai encore un autre pour 14h.
Ok. Syphilis, herpès, hépatite B. Voilà, comme ça on va voir. Parfait.
Quand vous voyez ces patientes là comme aujourd'hui, pourquoi on viole en temps de guerre, vous pensez ?
Je crois que c'est véritablement une volonté de salir, de souiller. Et donc, ces conduites-là qui deviennent très systématisées sur des zones de conflit, hein, on en a de plus en plus dans des conflits divers, il y a non seulement faire mal, mais aussi provoquer une salissure, quelque chose que la personne portera tout le temps.
Avec des violences qui continuent après le viol, puisque ces violences sexuelles ont des conséquences, parfois des grossesses non désirées, comme cette femme-là, qui parle de son enfant qu'elle n'a pas pu et pas voulu élever.
C'est bien évidemment, d'une certaine façon, ça que l'agresseur va chercher, c'est-à-dire une espèce de reproche permanent, très paradoxal, de reproche de la victime envers elle-même, qui est véritablement une prolongation de la douleur, comme une torture qui durerait dans le temps, et pas un épisode de violence, pas un combat, mais quelque chose de répétitif, de véritablement indicible. C'est vrai que par rapport à la pratique médico-légale, dès la fin des années 2000, enfin la fin du siècle dernier, on ne voyait pas ces situations-là. On voyait des situations de violence pour des personnes déplacées, mais pas de ce type. Bien sûr, ça a toujours existé. Enfin, on a des exemples historiques. Les femmes allemandes en 1945, c'est typiquement le viol de guerre. Sauf que ce cas-là a mis énormément de temps à être connu historiquement et révélé, même s'il était de façon importante. Donc ce viol de guerre, on le voit arriver de plus en plus et on s'y voit confronté avec parfois des lésions. Enfin, j'ai souvenir d'une patiente avec une destruction du périnée, parce que le viol s'était aussi accompagné de viol avec le canon de l'arme qui avait entraîné des lésions, qui avait été vaguement réparé comme on peut dans l'hôpital le plus proche du pays africain dont elle était originaire et qui ont nécessité une intervention.
Sophie, 45 ans, est mère de 7 enfants. Elle vit dans le territoire de Massissi. Elle a été violée à 2 reprises. Une première fois en 2005 par des combattants du groupe armé FDLR lors d'une attaque sur Louis Beau, puis en octobre 2009 lors d'une attaque des FARDC, qui a laissé sa ville désertée par ses habitants. FDLR, groupe armé, FARDC, armée. Donc elle a été violée par les deux parties au conflit. Citation, entre guillemets, « J'aimerais porter plainte, mais je ne sais pas par où commencer. J'ai vu des avocats venir dans des véhicules de l'ONU pour parler de ce qui s'est passé. Je ne sais pas qui ils sont, mais il n'y a pas de témoin de ce qui m'est arrivé et je ne peux pas identifier ceux qui m'ont fait ça. Je souhaiterais qu'il y ait des sanctions contre eux, cela encouragerait le reste de la population à dénoncer ce qui leur est arrivé. » Fin de citation. Et ça, c'est un cas parmi d'autres. Marie, 37 ans, mère de 8 enfants, vit dans le territoire de Massissi. Elle a été violée à 6 reprises. À 6 reprises, et puis après, on lui a tout volé. Matelas, chèvres, poulet, tout. Et tout son village a été pillé. Voilà, il y en a tellement comme ça.
Aymeric Éluin, chargé de plaidoyer armes et impunité à Amnesty International.
En RDC, depuis 1996 jusqu'à maintenant, ce sont plusieurs milliers de femmes qui ont été violées. Alors il y a un chiffre qui est souvent avancé de plus de 200 000 femmes auraient été violées et jeunes filles dans l'est de la RDC, pour ne prendre que cette partie-là du pays. Mais ces chiffres sont nécessairement en deçà de la réalité, puisque la RDC ne dispose pas de ni les organes des Nations Unies présents sur place et d'autres institutions régionales de comptabilité exacte. Parce que combien de femmes se déclarent comme étant ayant été violées parfois. Certaines ne préfèrent rien dire et continuer leur vie tant bien que mal. Et 200 000, c'est une moyenne ville de province en France. Imaginons, visualisons une ville entière en France où il n'y a que des femmes, des jeunes filles violées. Alors on parle des femmes et des jeunes filles, mais il y a aussi, certes dans une moindre mesure, mais aussi des hommes et des jeunes garçons qui sont violés, quoi.
Quand nous avons ouvert, alors nous avons vu que c'était des agresseurs qui sont venus chez nous, dans la maison. Ils ont pris mon mari, ils l'ont tué.
Archivina, Congo RDC, 2010.
Après avoir tué mon mari, et ils m'ont violé, ils étaient au nombre de 20. Après m'avoir violé, ils m'ont coupé les doigts, comme vous venez de le voir. Et ils ont pris les cadavres de mon mari, ils ont coupé les sexes de ces cadavres. Et ils ont pris le ventre de ces cadavres, ils ont ouvert, ils ont pris les intestins Ils ont enfermé le pouce, mon pouce et le sexe de mon mari. Donc, ils m'ont obligé de manger. Quand j'ai mâché, je ne voulais pas avaler. Ils ont commencé à me couper un peu partout. Les visages un peu partout, les cuisses un peu partout.
Mutoto bali lala naye. Bali mulalisha babake. Mara tatu.
C'est-à-dire, je voulais vous expliquer comment mon mari a été tué. Quand ils l'ont fait sortir à l'extérieur, ils ont appelé mes enfants, ils ont vu ma fille de 14 ans. Ils ont pris mon mari, ils l'ont déshabillé. Alors ils ont voulu à ce que mon mari puisse violer sa fille. Alors ils ont fait coucher de force mon mari sur sa fille. Et alors après ça, ils l'ont fait trois fois, à trois reprises. Après ça, ils l'ont coupé, ils l'ont tué, ils ont tué aussi la fille et tué les cinq autres enfants qui étaient sortis de la maison. C'est ainsi que je suis restée seule, puisque mes parents étaient déjà décédés avant, mais ce n'était pas à cause de la guerre. Mais mes frères, on les avait tués là où ils étaient partis chercher de la matière première, et un peu à une centaine de kilomètres de chez nous. Je suis en train de me demander, je vais rentrer où, je vais vivre comment. Je n'ai pas de parents, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de frères, je n'ai pas des enfants. Je suis ici, je suis seule, alors je me demande, et je vais rester où, je vais aller où.
En 1999, pour la première fois, je découvre une femme qui a été violée, mais non seulement violée, puisque quand elle s'est présentée à l'hôpital, elle avait des multiples fractures au niveau du bassin, mais également son appareil génital était en lambeaux par un coup de feu.
Docteur Denis Mukwege.
Et là, je pensais tout simplement que j'étais devant un drame qui a été commis par un fou. Je me dis, nous sommes dans une période de guerre, donc il doit y avoir un fou qui a posé cet acte. Trois mois après, je constate que je viens de soigner 45 femmes, mais ces 45 femmes me racontent presque la même histoire. J'étais chez moi, les hommes en armes m'ont trouvé, m'ont violé. Après m'avoir violé, ils ont tiré sur moi, ils ont introduit une baïonnette, ils ont introduit un morceau de bois dans l'appareil génital, etc. J'ai commencé à me poser des questions. Ça faisait 15 ans que j'étais gynécologue obstétricien dans la région et donc je n'avais jamais vu des choses comme ça. J'ai fait appel à Human Rights Watch qui a publié le premier article en 2000, la guerre dans la guerre sur les corps des femmes. Non seulement nous avons traité 40 000 femmes, mais aujourd'hui nous venons de publier une étude faite sur 205 enfants de moins de 5 ans, et nous avons trié parmi 3500 enfants qui ont été tout simplement des enfants de moins de 5 ans violés avec des lésions génitales très très graves, et vous comprenez la destruction du vagin, du rectum et de la vessie. Ce sont des viols avec extrême violence, mais qui se font de façon méthodique, car ce sont des viols qui sont collectifs. Donc une femme, c'est rarement, la moyenne, c'est de trois hommes par viol. Donc ce sont des viols qui sont collectifs. Ces viols se commettent avec torture et souvent ça se termine par un esclavage sexuel. Mais le fait aussi de violer en public amplifie en fait ces actes, puisque ceux qui ne sont pas violés physiquement, donc les hommes ou les enfants, les sont violés psychologiquement, le fait d'assister à la torture de leurs proches. En fait, ce sont des viols qui sont systématiques. Systématiques puisque l'enfant, en fait, le bébé que j'ai soigné, la moins âgée, avait 6 mois, et des femmes de plus de 80 ans qui ne savent même pas leur âge, puisque à leur époque, il n'y avait pas d'état civil, et donc elles ont des enfants de plus de 65 ans. Elles ne peuvent avoir que plus de 80 ans ont été soignées. Et ici, je dois dire que ces viols ne tiennent pas compte également du sexe. Dans nos études, 1% des viols concernent les hommes. Et nous avions constaté que dans certains villages, 100, 200, 300 femmes pouvaient être violées dans une seule nuit. Et ça, ça ne peut pas s'expliquer non plus sans qu'il y ait eu une notion de planification derrière ces viols. Les tortures dépendent de groupes armés, dépendent de bandes armées. Si les gens d'un même groupe font la même chose, ça veut dire qu'ils se préparent.
Il se passe un phénomène nouveau depuis la guerre du Kosovo, la guerre de l'ex-Yougoslavie, c'est que là, les viols sont un peu plus systématiques. Ça a déjà existé, mais là, ça devient une arme de guerre.
Archivina, Boris Cyrulnik, 2010.
C'est-à-dire que beaucoup de soldats ont constaté qu'en tuant des gens, on rendait un village très malheureux, mais on n'empêchait pas le processus de deuil. C'est-à-dire que les gens se regroupent, s'entraident, et la vie redémarre dans le village. Ce qui n'est pas le cas quand toutes les femmes sont violées, les femmes sont détruites, les familles sont détruites, les hommes qui n'ont pas été tués sont morts de honte de ne pas avoir su protéger leurs femmes, les enfants sont morts de honte parce que les discours autour d'eux parlent du sexe de leur mère, ce qui pour eux est un équivalent d'inceste. Et quand il m'est arrivé de rencontrer ces femmes, il était impossible d'en parler, ou alors quand elles avaient été chassées de leur famille et de leur culture et regroupées dans des institutions qui s'occupaient très bien d'elles, elles avaient pour se défendre un discours un peu stéréotypé, c'était un peu toujours la même chose qui arrivait.
La patiente n'est pas arrivée, celle de 10h. Okay. Vous me passez un coup de fil quand elle est là ?
Oui, oui.
Ok, ça marche.
Merci.
Je pense pas.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va.
Comment vous vous appelez ?
Je m'appelle Amina.
Alors Amina, vous venez d'où, vous ?
Je viens de la République démocratique du Congo, RDC. Et en 2011, il y avait l'élection présidentielle pour le président du moment, Joseph Kabila. Il y avait des campagnes dans mon village. C'était la première fois. Il y avait une groupe d'opposants de M. Vital Kamerhe, groupe INC. Et là, moi, je me suis intégrée. J'étais dans l'animation. En fait, j'ai appuyé les partis parce que j'étais convaincue par leur discours. Et les jours de la manifestation, on était là en train d'animer. Et on a vu les policiers qui est venu, il nous a chassés avec les armes, des lance-pierres, des climogènes, tout. Donc il était vraiment violent. Et c'était les gens des PPRD, les partis du président Joseph Kabila. Il commence à attraper les gens, il attrape les gens, il les met dans les voitures par force et on nous amène en garde à vue. Et moi, j'étais là-dedans parmi les gens qu'on a attrapés. Oui. On nous a mis en garde à vue pendant 2 jours et après, on nous amène à Kindu, Maniema. Oui. C'est là où j'avais fait les prisons et c'était le pire moment de ma vie. En mai jusqu'en septembre. J'étais en prison, j'étais violée tous les jours par les policiers. Ils nous traitaient comme des animaux, je peux dire. Même les animaux, on les respecte. Bon. Voilà. Et nous, on était dans les prisons des femmes. Et il n'y avait même pas le sentiment de discuter avec entre nous. Donc il y a d'autres qui ne parlaient même pas. On se regardait seulement, tellement, c'était tellement dur. Donc, ils nous violent quand ils en ont envie. Ils viennent nous chercher le matin, ils nous proposent des choses bizarres. Ils nous amènent là où on ne connaît même pas, dans la forêt, on ne connaît même pas. Donc, dans des chambres cachées qu'on ne connaît même pas, ils disent que si vous bougez, on va vous tuer. Donc, tu n'as même pas le droit de bouger, tu n'as même pas le droit de crier parce qu'il n'y a personne qui va venir t'aider ici. Et toi-même, tu sais que tu es appuyé les partis de l'opposant, du président. Donc, inutile. Il fait ce qu'il en a envie. Même pour se doucher, c'était dur. On ne se douchait même pas. Si tu veux te doucher, même un petit peu de l'eau là pour se doucher, se nettoyer comme ça, il faut que tu fasses l'échange avec et il couche avec toi et toi, il te donne de l'eau, des petites eaux comme ça, vous tu te douches. Donc c'était vraiment horrible. Moi, je peux dire qu'on était beaucoup. Il y avait les gens qui mouraient là, on voyait comme ça. Il y a quelqu'un qui est mort là. Et vous passez même comme ça. Et il est mort. Il n'y a même pas personne qui peut l'arranger. Il est mort comme ça, comme une mouche.
Moi, quand je pense au viol, je me dis que c'est le pire crime qui existe. Qu'est-ce que vous vous dites, vous ?
Bien sûr, c'est ça. C'est le pire crime qui existe dans le monde. C'est le pire douleur, moi je peux dire douleur dans la vie. C'est le pire. Être violée, vous savez, même avec le papa de mes enfants que j'avais avant, bien sûr qu'il me violait, mais je le connaissais. J'avais accepté, même si c'était le mariage forcé. J'avais trouvé ça normal, que même si c'est forcé, mais c'est normal. C'est la coutume. Bon, mais avec les policiers, ce n'était pas le cas. Je suis violée par les gens que je ne connais même pas, les gens que je n'ai jamais rencontrés dans la vie, les gens que je n'ai pas envie, les gens qui, il y a des fois, il vient la nuit, je ne vois même pas son visage. Voilà. Et je me suis échappée. C'était par l'appui de mon père. Quand il a fait ses enquêtes et il a trouvé que j'étais en prison, et mon père, lui, il était à Kinshasa, il m'a envoyé un cousin que je ne connais pas, le cousin. C'est ce qu'il m'a dit, que c'est mon cousin qui est venu me chercher. Quand il est venu me chercher, il est venu me déposer à manger pour moi. Donc s'il entre comme ça, il avait corrompu. Mon père, il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup payé pour ça. C'est pourquoi, quand il est venu me voir, il a dit, attends seulement quelques jours après, là, tu vas sortir. Mais tu vas faire ce qu'un de ces policiers va te dire. Donc, il faut faire ça. Quand je me suis échappée de la prison, la nuit, on m'a mis dans l'avion par cachette. Je suis allée à Kinshasa. Je suis arrivée en France et là, j'étais enceinte de 5 mois. Ouais. J'ai vu directement que je suis tombée enceinte des policiers qui me violaient. Et je ne sais pas si c'était qui, parce qu'ils étaient beaucoup. Ce n'étaient pas les mêmes personnes. J'étais vraiment au bout, abattue.
Vous avez accouché en France, oui, de votre petite fille?
Oui, oui, j'ai accouché une jolie petite princesse. Ouais, je l'aime beaucoup, c'est ma fille. Moi, il y avait les gens, même ici, on m'avait proposé d'avorter. Pourquoi vous voulez garder un enfant que tu ne connais même pas les pères? Moi, j'ai dit, c'est dur, je ne connais pas son père, mais c'est un être humain, je ne peux pas faire ça. En plus, je suis croyant. Et là, j'ai du mal avec ma fille. Tout le temps, elle me demande... Il est où mon papa? C'est qui mon papa? Pourquoi je ne vois pas mon papa? Pourquoi mon papa ne vient pas me chercher à l'école? Pourquoi il n'y a pas de photo de mon papa? Donc tout ça, c'est vraiment dur pour moi. Et je ne sais pas comment je peux l'expliquer un jour, je ne sais pas. Je n'ai jamais parlé à ma fille de son père. J'arrive. Va jouer, j'arrive. Ouais.
On constate qu'il y a une volonté d'utiliser le viol comme un outil de guerre avec une finalité de guerre qui est détruire l'ennemi au travers de la femme. C'est-à-dire qu'on détruit la femme parce qu'elle est femme et qu'elle est capable d'assurer la survie de la population touchée en contribuant à ce qu'elle se renouvelle. Donc en faisant porter l'enfant de l'ennemi par la femme qu'on a violée, finalement on détruit le corps social, parce que il y a des phénomènes de rejet après de ces femmes qui ont été violées, les enfants qui vont être le visage de l'ennemi finalement qu'on va voir et côtoyer au quotidien. Donc et c'est aussi une stratégie pour déplacer les populations, c'est-à-dire qu'on fait peur, on viole et on dit ne revenez pas, regardez ce qui va se passer. Et puis on détruit un corps entier en faisant passer le message suivant, regardez, nous violons vos femmes.
Quand on parle viol de guerre, tu vas violer la femme de ton ennemi, c'est pour humilier ton ennemi. Mais la femme, elle n'existe pas dans cette histoire, elle est transparente.
Docteur Emmanuel Piet.
Parce que le viol, ça n'a rien de sexuel, c'est du meurtre, c'est de la destruction. Ce qui fait bander ces gars-là, c'est de détruire. Leur fusil, c'est leur but. Mais ils s'en servent comme d'un fusil. Donc tu peux tuer un bébé... Ça fait plus d'effet, ça abîme plus, ça rend plus triste, c'est mieux. Moi, j'ai jamais rencontré une personne victime de viol qui n'ait pas pensé qu'elle allait crever. C'est une sensation de mort immédiate. C'est très récent dans notre histoire que on reconnaisse les femmes comme victimes dans les viols de guerre. Les premières qui ont réussi après un combat de plus de 40 ans, c'est ce qu'on a appelé les putains coréennes. C'était les femmes qui avaient été enlevées par l'armée japonaise pour servir de prostituées à l'armée japonaise et donc subir des viols incalculables. Elles ont mis plus de 40 ans pour être reconnues comme victimes de viol. Après ça, il y a eu les Yougos. Et alors, les Yougos, moi j'étais ici quand elles ont demandé, enfin, elles demandaient des avortifs et des contraceptifs, ça je sais faire, c'est mon taf. Et bien elles demandaient des armes aussi. Et moi, les armes... Et alors, j'avais été voir ma vieille patronne, parce que j'avais trouvé ça tellement extraordinaire. Cette histoire-là, c'est Jacqueline de Chambrun. Elle avait été médecin du maquis pendant la guerre de 40. Et elle était, à ce moment-là, médecin au secours populaire pour... Donc, on s'était dit, on pourrait faire une mission pour apporter, en tous les cas, les contraceptifs et les abortifs. Sur les armes, j'étais pas très bonne. Et je dis, mais quand même, les armes, madame. Et elle me dit, mais bien sûr, il faut des armes, parce que comment tu veux qu'elles se défendent? Et elle me raconte que quand elle était au maquis, donc en 43... médecin, il y avait deux gars qui lui en avaient amené un troisième qui avait une blessure à la cuisse. Et elle me dit, mais tu penses bien que je ne l'ai pas soigné? Alors, je dis, quand même, madame. Ben, il n'avait pas de trou à son pantalon. Qu'est-ce qu'il faisait le pantalon baissé? Alors, je pense à cette jeune femme, elle devait avoir 24 ans à l'époque, dans le maquis. Elle avait cette préscience-là. Elle savait ce que c'était le risque. Nos camarades violaient aussi, mais ça ne se disait pas. Et au fond, ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir c'est tous ces viols qui ont eu lieu pendant cette guerre-là, dont on fait une précieuse économie de parler, avec les femmes tondues, tu parles qu'elles ont été que tondues, avec la libération et les Américains, etc. Je me dis, moi, ce qu'on a voulu occulter, d'une certaine manière, dans les guerres, les femmes le savent.
Avec ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine, où on estime que c'est... plus de 60 000 femmes qui ont été violées, le génocide rwandais, où là, les estimations vont de 250 000 à 500 000 femmes qui ont été violées, des femmes, des jeunes filles. Il y a ce phénomène de judiciarisation qui s'est imposé, et les juges qui ont été confrontés à ces pratiques dans le cadre du tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie ou le tribunal spécial pour le Rwanda ont intégré le fait que les violences sexuelles pouvaient être un crime contre l'humanité et pas seulement un crime de guerre. Donc c'est quelque chose qui est assez important à souligner, puisque en faisant ça, on a élevé les violences sexuelles au rang des infractions déterminant ce qu'est un crime contre l'humanité, par exemple, et on les a rangées dans la catégorie des pires crimes. Les pires crimes, c'est ce qui ont justifié la création de la Cour pénale internationale. C'est crimes de guerre, génocide, crimes contre l'humanité. Et d'ailleurs, les violences sexuelles, telles qu'on peut les constater en confirmé, peuvent être constitutives de génocide. Donc c'est un message très fort qui a été envoyé. Je pense que la justice a vocation à dissuader, et tant que la justice internationale n'ira pas plus fortement sur les questions de violences sexuelles, on verra ce type de pratique continuer. Ce type de pratique continuer aussi tant que les États ne feront pas plus pour taper du poing sur la table. En RDC, il n'y a pas que les institutions des Nations Unies qui sont mobilisées, il y a aussi l'Union Européenne et tout un tas de pays qui ont encore des ambassades sur place, qui collaborent aux différentes opérations de maintien de la paix et de police, qui ont des relations diplomatiques... Il y a un moment, il faut aussi savoir pointer du doigt les pratiques qui sont encouragées, dissimulées. Par exemple, aujourd'hui, il n'est pas normal que le docteur Mukwege puisse être inquiété et puisse subir des menaces de mort, par exemple, dans le cadre de son activité liée à son hôpital de Panzi. Les RDC, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'ils ont un système judiciaire qui est absolument délabré, quoi. Par exemple, pour tout ce qui est crime de droit international, crime de guerre, crime contre humanité, génocide, ce sont les tribunaux militaires qui sont compétents pour juger à la fois les militaires et les civils qui auraient commis ce type de crime. Donc déjà, ça c'est un vrai problème. Parce que si les militaires jugent des militaires, et on l'a documenté, c'est que les officiers vont être protégés par le pouvoir politique, les officiers vont protéger petits soldats, tout le monde se protège. Quant aux civils, on ne peut pas s'attendre à une justice équitable, c'est pas possible. Tout système congolais coupable, tout système politique coupable. Parce que du moment de la commission de l'acte à la fin, avec, imaginons, un procès et jusqu'à la question des réparations, rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne. Les femmes vont avoir peur d'aller porter plainte. Parfois, elles ne connaissent même pas comment fonctionne leur propre système judiciaire. Mais c'est pas étonnant. La RDC est un pays qui est vaste, avec à l'est du pays, un pays qui est difficile d'accès. Les distances sont longues à parcourir. Et parfois, vous rencontrez des menaces sur votre chemin. Il faut savoir aussi à qui on va s'adresser. Quelle force de police, quel tribunal. Il y a un système d'aide judiciaire, mais qu'il connaît, et qu'il n'est pas doté, il est très peu doté en moyens, ce système. Alors, il y a des choses qui ont été faites, comme mettre en place des audiences foraines. Alors, les audiences foraines, c'est le fait de déplacer des tribunaux ad hoc dans ces lieux reculés pour permettre à la justice d'aller vers la population civile et comme ça faciliter l'accès à la justice.
Mais qui met ça en place? Les ONG sur place ou
non, c'est le gouvernement à l'instigation et avec la pression de la communauté internationale. Mais tant que la RDC ne décidera pas de mettre en place un plan national d'action, un véritable plan d'action national, avec des moyens humains, financiers, techniques, pour changer les choses, quand elle continuera à encourager l'impunité de ses forces armées, par exemple quand vous avez des groupes armés qui ont été intégrés dans les FRDC et qu'on continue à protéger parce que on préfère la stabilité à l'insécurité, entre guillemets, parce qu'on devrait les poursuivre pour les crimes qu'ils ont commis, il y a un vrai problème. Il faut aussi que ce type de pratique change. Et aujourd'hui, on parle de plus de 6 millions de morts directes et indirectes liés au conflit. Vous vous rendez compte, quoi? C'est quasiment une seconde guerre mondiale à une échelle régionale. S'il y avait une réelle volonté, le président congolais actuel peut-être ne se présenterait pas à nouveau et ne chercherait pas à changer la constitution pour avoir un troisième mandat. La volonté, elle est d'abord étatique, humaine, politique. Ce sont des élites qui cherchent à protéger des intérêts égoïstes. Les populations civiles, dedans, n'ont pas leur place.
Donc c'est juste une histoire d'économie ?
Économie, politique, pouvoir. Pouvoir, au sens machiavélien du terme.
Les gens qui font tout ça, ce sont les gens de PPRD. Ce sont les gens qui soutiennent le président Joseph Kabila, qui ne veut pas quitter le pouvoir.
Et qui se représente encore là.
Oui, il est toujours là. C'est lui qui commande. On dit toujours dans mon pays qu'il y a les droits de l'homme, mais je n'ai jamais vu ça. Parce qu'on ne peut même pas marcher. Peut-être on n'a pas été content de quelque chose qui s'est passé, on ne peut pas marcher. Parce que si vous marchez sainement, il vient avec leurs armes, il tue les gens quand il veut, donc on vous fait entrer, et il y a les policiers qui viennent, ils vous prennent, on vous met en prison sans vous demander, il n'y a personne même. Donc c'est lui qui décide, il fait tout ce qu'il veut. Avant, ce n'était pas comme ça.
Et les armes sont au cœur de tout. Si vous enlevez la disponibilité en armes, vous réduisez d'autant les possibilités de violence sexuelle. Et il n'est pas rare de voir, on l'a documenté, tel officier qui prend un camion dans telle base militaire rempli de munitions et d'armes et va les refourguer à un groupe armé en échange de quelques milliers de dollars. Il y a un niveau de corruption phénoménal. Alors, il est certain qu'un homme qui vient avec un bâton peut menacer de violence physique des femmes. Mais l'effet sera moins fort qu'avec une Kalachnikov, par exemple. Et les Kalachnikov, par exemple, en RDC, on en trouve à tour de bras, plus les munitions. C'est sur le théâtre de viol qui a constitué le village de Walikale, on a, nous, documenté la présence de douilles chinoises, par exemple. Donc ces armes et munitions qui viennent du monde entier accroissent les possibilités de violence sexuelle, parce que vous arrivez dans un village, vous avez une Kalachnikov, vous tirez en l'air, vous tirez au sol, vous faites peur, et donc les gens se figent. Et là, les exécutions peuvent commencer. Et c'est pour ça que le traité sur le commerce des armes, qui est entré en vigueur le 24 décembre 2014, est majeur pour nous. C'est le premier instrument de droit international qui fait ce lien entre le recours aux armes et les violences sexuelles qui sont permises. Les armes, aujourd'hui, nous le reconnaissons, nous, en tant qu'État, quand nous devenons partie au traité sur le commerce des armes, autorise, facilite la commission de violences sexuelles. Donc c'est une avancée majeure. Et maintenant, il est temps aussi d'éduquer, quoi. D'éduquer. Je pense que on peut mettre en place le système de justice qu'on veut. On peut continuer à faire attention au commerce des armes de façon à ce qu'il ne soit pas irresponsable. On peut faire en sorte que de lutter contre le trafic. On peut faire en sorte de lutter contre la corruption, contre la mauvaise gouvernance, etc. Tant que des individus seront convaincus au fond d'eux-mêmes que violer une femme, c'est normal, il y aura encore ce type de violence. Il y a un travail de sensibilisation qui est colossal à faire, et il ne faut pas cesser de décourager par ça. Et les ONG en RDC le font, et le font bien. Les Nations Unies le font. Est-ce que c'est suffisant ?
Pourquoi vous avez accepté de témoigner, Amina, aujourd'hui ?
Bon, on ne peut pas rester comme ça, les mains croisées. Il faut que le monde entier, ils savent ce qui se passe dans d'autres pays. C'est ça, on ne peut pas cacher ce qui se passe. Parce que s'il n'y a personne qui témoigne ça, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans nos pays.
Vous n'avez jamais peur, vous, Amina ?
Si c'était dans mon pays, je n'allais pas faire ça parce que dès que j'ai fini seulement de parler comme ça, je suis mort. Mais là, j'espère que, au moins, c'est pas le cas. C'est pourquoi il faut que je m'exprime.
Les survivantes. Avec le docteur Bernard Marc, Alicia et Amina, Aymeric et Luin, le docteur Emmanuel Piette et le docteur Denis Mukwege. Merci à Lina et à Linda Simon pour les archives. Merci à la Michael Duny, Amnesty International et à l'Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis. Prise de son Yann Frécy, mixage Valérie Lavalard. Un documentaire de Johanna Bedeau, réalisé par Marie-Laure Ciboulet pour la série documentaire. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous voulez en savoir plus, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster ou nous réécouter, c'est sur la page de l'émission, sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook, sur la page documentaire de France Culture, et sur Twitter. Demain, dernière étape, violence à Cologne, entre stupeur et tremblement, pour sortir de la violence faite aux femmes. Mais dans un instant, juste avant le journal de 18h, on retrouve Mélanie Chalandon.